France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Vivre pour sauver des vies, c'est une définition possible du métier de soignant dans le domaine de l'aide humanitaire, qui est peut-être bien plus qu'un métier. C'est notre deuxième épisode de cette série sur l'idée d'aide humanitaire. Peut-on réfléchir aux idées et aux idéaux sans prendre le temps d'écouter celles et ceux qui les portent? Bien sûr que non, il faut absolument faire la place dans cette série aux trajectoires de vie des personnes engagées dans l'humanitaire. Toutes les générations ne se ressemblent sans doute pas, et s'il est indispensable d'écouter celle qui a véritablement créé l'engagement humanitaire en France, une génération née peu avant ou juste après la Seconde Guerre mondiale, une génération de militants de gauche souvent, arrivée à l'humanitaire en rompant avec certains aspects de son militantisme pour en prolonger d'autres, mais autrement qu'avant, il est aussi important d'entendre des générations plus jeunes, un peu éloignées des grandes discussions des années 1960 et 70, mais ayant pour point commun avec la première génération le souci du terrain, de la souffrance concrète à soulager. Bienvenue donc ce matin à deux invités qui parlent très bien de leur engagement humanitaire. Bonjour Xavier Emmanuelli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin diplômé en 1967, si je ne me trompe pas. Plus tard, vous vous êtes spécialisé en anesthésie-réanimation et en médecine d'urgence, notamment grâce à celui qui fut un maître pour vous, le professeur Pierre Huguenard, qui était l'un des fondateurs du SAMU. Auparavant, copain de Bernard Kouchner au sein de l'Union des étudiants communistes, et puis anticolonialiste, vous avez été un des fondateurs de Médecins sans frontières en 1971. Vous nous parlerez de certaines de vos missions sur le terrain. Vous avez toujours, m'avez-vous dit, beaucoup d'amitié pour Ronnie Broman. Et puis vous nous raconterez, Xavier Emmanuelli, vos activités au sein du SAMU, ce que signifie pour vous la médecine d'urgence, ainsi que votre découverte du milieu carcéral à l'occasion d'un secours en urgence. Vous êtes devenu d'ailleurs, de 1987 à 93, médecin-chef à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. En 1998, vous avez fondé le SAMU social de la ville de Paris, quelques années plus tard le SAMU social international. Vous avez publié notamment chez Albin Michel un livre intitulé « Au seuil de l'éternité » qui raconte votre parcours. Je rappelle que vous avez été aussi secrétaire d'État chargé de l'humanitaire auprès du Premier ministre de 1995 à 1997. Et bonjour Nelly Staderini.
Bonjour.
Vous êtes en duplex avec nous depuis Genève, merci aux équipes de la Radio Suisse. Vous êtes sage-femme, vous vous êtes engagée dans des missions humanitaires aussi bien en Afghanistan en 2001 et 2002, ce qui a donné lieu à un ouvrage, votre ouvrage aux éditions Cheminement, qu'au Tchad en 2006 et 2010, mais encore au Pakistan et au Burundi. Aujourd'hui, vous êtes référente médicale de l'unité qui s'occupe de la santé des femmes et des enfants au siège de MSF à Genève. Donc vous formez aujourd'hui beaucoup de sages-femmes. Alors, Xavier Emmanuelli, comme l'une de vos premières missions au sein de MSF était au Bangladesh en 1972, je vous propose de partir de là en écoutant une interview sur France Inter, l'intervieweur était Roger Jiquel, d'un père jésuite belge qui raconte à ce moment-là ce qui se passe au Bangladesh. On est en décembre 1971. Le Bangladesh vient de conquérir son indépendance par rapport au Pakistan, auquel il appartenait depuis 1956 comme une région particulière.
Les réfugiés sont là, 10 millions. Qu'on le veuille ou non, ils seront la cause et les premières victimes d'une guerre éventuelle entre l'Inde et le Pakistan. J'ai demandé à ce sujet l'opinion du père Fallon, jésuite d'origine belge. Voici son témoignage.
Le Pakistan, ou du moins le régime actuel du Pakistan, d'une façon, disons, intelligente, peut-être diabolique, s'est débarrassé d'une façon systématique et probablement très consciente de cette grosse minorité hindoue, 8, 9 millions, qui leur semblait inassimilable. L'Inde, certainement, voudrait que ces gens rentrent chez eux. Mais cependant, rentrer, l'immense majorité de ces réfugiés viennent des villages du Delta. Et dans ces villages, vous avez évidemment des musulmans. Ils occupent les terres, les fermes. Ils ont en main tout ce que ces hindous ont abandonné. Ces paysans bengalis, ils ont habitué à leur village, à leur terre, à leur culture, à leur climat, à leur langue. les transporter dans des régions lointaines de l'Inde, c'est comme si vous vouliez transporter des Irlandais en Ukraine. L'immense majorité des réfugiés ne veulent pas et ne voudront jamais partir très loin de tout ce à quoi ils sont habitués, ce qu'ils connaissent, ce dont ils vivent.
Xavier Emmanuelli, qu'est-ce que le Bangladesh en 1972 vous a appris ?
C'était ma première mission en tant que. Et j'étais dans un milieu extrêmement incompréhensible. Comme la première mission, j'avais l'impression d'être dans une sorte de Capharnaüm. On voyait encore les restes des gens qui se fusillaient, la guerre se poursuivait. Et puis il y avait de la pathologie très étrange, puisqu'il y avait toutes sortes de pathologies, y compris la variole. J'en avais on était en 72, la variole datait du 17e siècle, la vaccination. Oui. Elle a mis tout ce temps pour arriver, et je me souviens qu'on a été, on était à Charia Kandy, c'est-à-dire en pleine, j'allais dire brousse, non, province. On avait passé tout ce chemin en prenant des bacs et franchissant des rivières, et on s'occupait du village. On nous amenait des gens malades à notre dispensaire, et en particulier des enfants avec la variole. Et il y en avait beaucoup. Et dès qu'on a pu, on envoyait ces statistiques, on a été au ministère pour dire il y a tous ces enfants qui meurent de variole. On était stupéfaits. Et le ministre, qui nous a reçus, avait dit oui, c'est bien dommage. Ah, un grand soupir. Bon, ben, ils se réincarneront. Ils se réincarneront. C'était ça, le dépaysement.
Oui.
C'est-à-dire que jamais j'aurais pensé entendre ce genre de choses de la part du ministre de la Santé. Et puis, j'avais été avant à Calcutta, à l'époque, vous voyez des gens qui mouraient dans la rue. Et il y en avait plein. Et puis, personne ne faisait attention. On les enjambait. Et on m'avait dit, tu verras des gens mourir dans la rue, mais t'inquiète pas, ils sont en train d'achever leur karma, et surtout ne t'en mêle pas, tu les contrarierais dans leur pérégrination de leur âme. Et j'ai vu en effet que quelque chose d'exotique, j'ai pas fait plus attention. Mais à ce moment, au même moment, il y avait Mère Teresa qui elle accompagnait ces gens. Ils se foutaient pas mal, savoir si c'était karma, pas karma. Mmh. C'était des êtres humains qui mouraient. Il y avait ce dépaysement, la guerre, toutes ces pathologies, c'est un dépaysement. Et j'avais pas d'expérience de ça. Il a fallu m'ajuster à cette étrangeté. Je n'étais pas dans le monde. J'étais dans un endroit d'enfer, très dangereux. On voyait des gens qui posaient des mines et on entendait des coups de feu dans la nuit. Et en plus, on ne comprend pas les paroles. Et le langage corporel des gens, quand vous voyez, vous ne comprenez pas ce qu'ils veulent dire. Est-ce que c'est de la colère, de l'étonnement ? Bref, c'était très dépaysant.
Alors Nelly Staderini, ça tombe bien ce que vient de dire Xavier Emmanuelli pour amorcer notre conversation. Car vous, votre première mission, je ne sais pas quel âge vous aviez, ni si vous étiez déjà diplômée comme sage-femme, vous nous le direz, mais vous êtes allée avec Mère Teresa à Calcutta. Racontez-nous.
Oui, alors effectivement, moi j'avais aussi entendu dire que les gens mouraient dans les rues. Alors c'est pas ça qui m'a attirée, mais en tout cas c'est l'étrangeté, parce que c'est pas ce qui arrivait à ce moment-là à Paris. Je venais de rater médecine, j'étais complètement désespérée, et j'allais entreprendre des études de sage-femme, dont m'avait parlé ma mère en disant « tu vas garder ce qui t'intéresse, c'est-à-dire la notion de diagnostic ». Voilà, donc je suis arrivée effectivement chez Mère Teresa, sauf que moi j'étais complètement laïque, donc ils n'avaient pas tellement l'habitude de voir ça. Et je me suis occupée des enfants des rues, des personnes âgées, et j'ai découvert au-delà de la religion vraiment une part d'humanité, et ça m'a convaincue sur le rapport à l'autre, qui était vraiment quelque chose qui m'intéressait, mais ça m'a aussi convaincue d'aller plutôt vers des organisations qui étaient à religieuses pour différentes raisons.
Vous êtes devenue sage-femme. Et là, vous êtes parti au Cambodge en 1998, si je ne me trompe pas. Et puis en Afghanistan en 2001 et en 2002. Et ça, c'est très intéressant parce que vous avez connu l'Afghanistan avec les talibans au pouvoir et l'Afghanistan sans les talibans au pouvoir. Alors, je vous propose qu'on en parle parce que j'aimerais bien savoir, on parlait d'étrangeté, si ça change la donne pour les femmes, notamment au moment des accouchements, mais une sage-femme fait bien plus que seulement accoucher, vous nous raconterez, vous avez un vrai rôle de prévention, vous occupez aussi un peu des petits qui naissent, un peu de puériculture et même de pédiatrie de terrain. Le rapport aux femmes est-il différent selon la situation? Alors pour lancer cet enjeu, je vous propose d'écouter un extrait sonore sur l'Afghanistan qui pour le coup date de 2020, mais ça va nous servir d'amorce.
En dehors de Kaboul aussi, la vie et la mort se frôlent de près. Ici, à Maidanchar, capitale de la province voisine du Wardak, le bruit de la guerre est quotidien. Et la maternité, située à moins d'un kilomètre de la ligne de front.
Voici deux semaines, nous étions en train de déjeuner lorsque deux roquettes se sont abattues juste dehors, dans la cour. Heureusement, personne n'a été blessé.
Asseyez-vous, ici, asseyez-vous, voilà.
Dans ce préfabriqué, la sage-femme Afiza donne un cours d'éducation à la santé des femmes enceintes et des nourrissons. Les hommes et les femmes, pourtant étrangers les uns aux autres, sont réunis et écoutent une jeune femme qui ne cache même pas son visage. Une scène inimaginable 10 ans plus tôt et le signe que les mentalités évoluent en terre pachtoune.
J'ai appris que les femmes enceintes ne doivent pas porter de choses lourdes. Et aussi qu'il faut espacer les naissances d'au moins 2 ans. Moi, j'avais déjà suivi une formation. Alors avec la mère de mes enfants, on fait du planning familial. Elle prend des pilules.
C'est un reportage d'Arte que vous venez d'entendre, réalisé par Margot Ben, donc en 2020. Nelly Staderini, les femmes qui doivent accoucher voilées lorsque les talibans sont au pouvoir, là ce n'est plus le cas. La discussion qu'on a, parce qu'on parle avec les femmes qui sont en train d'accoucher, la façon dont on se parle, les gestes qu'on fait, est-ce que ces choses-là changent quand il y a un autre pouvoir que celui des talibans?
Alors, pour revenir à mon expérience, moi j'ai passé, c'était des missions d'urgence, hein, donc j'ai passé 6 mois en 2001 et puis 6 mois en 2002. Et en 2002, ce qui était très intéressant, c'était juste après la chute des talibans. Donc à ce moment-là, il y a une espèce de vague d'espoir où effectivement on avait l'impression que le monde afghan allait complètement changer. Je pense qu'aujourd'hui c'est très différent. Donc voilà, c'est juste pour remettre en perspective ce que je vais vous dire. Après, oui, on va à la rencontre de l'autre. Après, parler avec des pachtounes au milieu de camps de réfugiés. On a besoin d'interprètes. Les interprètes, la qualité de ce qui est traduit, c'est pas toujours quelque chose qui est évident. Donc effectivement, juste pour revenir sur la question du geste, oui je pense qu'il y a tout ce qui est le non-verbal qui joue énormément, et particulièrement en Afghanistan. Moi je me souviens, malgré un contexte d'urgence assez terrible, de beaucoup d'humour en fait. Donc on voit derrière des regards expiègles, derrière des sourires, on arrive vraiment à communiquer beaucoup de choses.
Donc ça change ou ça ne change pas? On est loin du pouvoir quand on est en train d'accoucher ou pas si loin? Je vous dirais, de ces injonctions. Et vous, comme sage-femme, comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous sentez la lourdeur, la pesanteur politique, ou bien celle-ci est en dehors de la pièce, toujours?
Je pense que ça dépend. Au moment où vous accouchez, vous êtes très loin, mais dès que vous sortez de la pièce, vous n'êtes plus très loin. Je me souviens, quand j'étais sage-femme en Afghanistan, on portait le purda, c'est-à-dire ce voile comme ça. Et évidemment, dès qu'on arrivait dans la salle de naissance, il y avait une espèce de liberté, voilà, on faisait un peu ce qu'on voulait. Mais dès qu'on sortait de cette porte, voilà, on risquait d'être en contact avec des hommes, et il fallait vraiment porter ce voile. Donc, je pense que la dimension politique ou culturelle, elle vous rattrape extrêmement rapidement. Mais dans une salle de naissance, oui, il y a quand même quelque chose de l'intime, et une forme d'utopie aussi parfois qui va avec ça.
Xavier Emmanueli, au Bangladesh, c'est le médecin Raymond Borel qui avait lancé un appel aux médecins pour aller là-bas. Évidemment, vous pouvez évidemment réagir sur ce qui m'a dit sur le Pakistan, mais je voulais vous amener vers un sujet qui vous est très cher, alors vous ferez comme vous voulez pour y arriver, qui est l'enjeu de la médecine générale. J'ai senti que vous êtes quelqu'un pour qui la médecine générale, c'est très important. C'était peut-être ce que disait Raymond Borel aussi, je ne sais pas. En tout cas, que l'humain, il faut le prendre entièrement, c'est ça un médecin.
En effet, Raymond Borel n'était pas médecin, c'était un...
Pardon.
Non, mais c'est pas grave. C'est lui vraiment. Il était journaliste. Mmh. Et un vrai professionnel. Il avait travaillé dans différents grands journaux, y compris détective. Et il s'était replié sur un journal médical, un journal de support de laboratoire à l'époque, qui s'appelait Tonus, qui était très connu parce qu'en même temps qu'il faisait. Pas de la publicité, mais enfin, qui l'encourageait, le laboratoire Welcome, non, Winthrop. Il écrivait des articles et il encourageait la médecine générale. Il disait, c'est des gens qui ne sont pas reconnus, il faut encourager, il faut aller soigner les gens jusqu'au fin fond des campagnes. C'est le métier le plus noble qui soit. J'étais d'accord avec lui. Mon père était médecin et un médecin généraliste. Il est devenu médecin à l'âge d'homme, c'est-à-dire qu'avant il avait été instit. Et donc.
Et votre mère était institutrice, je crois, non?
Et maman aussi.
Il vous a transmis ça sur la médecine générale?
Non, il a transmis. Il n'a jamais parlé de ça. Ça pour m'encourager, me décourager. Mais c'était pour lui un conte de fées, une histoire. Comment l'organisme se défendait, comment, depuis la nuit des temps, c'était une lutte entre les bactéries, les champignons, les virus. Et c'était comme une épopée, il racontait Pasteur, la Croix-Rouge. Il nous a fait rêver. Mais il m'a jamais dit, tu vas faire médecine. Mais
alors, n'empêche qu'il a réussi quand même son coup, parce que votre sœur, vous avez une sœur qui est gynécologue, je crois.
Qui était. Oui.
Un frère, gynécologue et chirurgien. Et une autre sœur qui a fait
tournée.
Pharmacie. Oui, mais on n'est pas loin du soin. Elle est professeure d'université en pharmacie. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Comment vous analysez-vous cet engagement de toute la famille autour du soin?
Quand on était petit, mes parents étaient jeunes et mon père faisait un remplacement de médecin. C'était un médecin juif qui s'appelait Korba. Et il avait recommandé l'orphelinat juif. Il prenait, faisant bien soin, il n'a pas besoin de lui dire ça, et à cet orphelinat, il y avait une petite juive polonaise qui venait d'être engagée, s'appelait Toba Thérèse Belbelski. Et au moment de la rafle du Veldiv, lui était à la Varenne, à Saint-Maur. Elle est arrivée, les gens ont parlé, ont donné l'alerte. Elle ne parlait pas un mot de français, elle ne savait pas quoi faire. Elle a été voir le docteur qui soignait les petits orphelins. Et mon père et ma mère n'ont pas pu faire autrement que entrer. Ils l'ont planqué tout le long de la guerre. Et ils ont été reconnus comme justes parmi les nations, vous savez, à Yad Vashem.
Oui.
Et quand j'ai été adolescent, je dis, mais enfin, qu'est-ce que t'as fait Et en plus, ils plaçaient les enfants dans les fermes de ces réseaux. Je dis, mais enfin, tu faisais ça, mais t'as risqué ta vie, et celle de tes enfants, en plus. Il m'a regardé, et il m'a dit, en rigolant, et alors, monsieur l'intelligent, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est-à-dire qu'il a considéré qu'il n'avait pas le choix. Et ça, j'étais petit, et après j'étais ado, cette réponse, qu'est-ce qu'il fallait faire? Une fois que tu as commencé un truc, que tu as considéré que tu n'as pas le choix, tu ne peux plus revenir en arrière. Et l'engagement, il vient de là. il y a un moment, c'est rare d'ailleurs, vous êtes à la croisée des chemins, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la chance, c'est ça qui est votre destin. Vous choisissez, vous sautez dans le grand bain et ça engage votre vie et celle de vos proches.
Et politiquement, Xavier Emmanuelli, vous avez été au Parti communiste. Vous étiez gauchiste ou communiste, qui n'a rien à voir à l'époque.
Rien. Alors
expliquez-moi un peu et comment cette chose-là, vous l'engagement politique, ensuite s'est marié ou a divorcé, au contraire, vous me direz, de votre engagement de médecin.
Eh bien, à l'époque, vous savez, il y avait quand même le thème de l'armée rouge, ils avaient donné des millions de morts pour se libérer.
Il y avait un million de morts pour vaincre le nazisme, c'est ça que vous faites référence.
Et quand on est ado, on a besoin de référents, on a besoin de héros, quoi. Et pour moi, c'était évident que c'était un peuple héroïque. Et puis, les communistes n'aimaient pas du tout ce qui allait vers le trotskisme. À savoir, les communistes, on commence par gagner la révolution dans son pays, puis après on voit la révolution internationale sur la terre entière. Et donc, c'est pas innocent de faire cette différence. Moi, j'étais plutôt ce qu'on appelait les Stals d'or.
Ah oui.
Les Staliniens. Et j'avais des camarades qui était plutôt genre Trotsky. Mais oui. Il y avait plein d'interprétations.
Le gauchisme est un univers très riche.
Qui a duré longtemps, vous savez. Et puis...
Qui n'est pas en forme, enfin, peu importe aujourd'hui, enfin, ça a changé beaucoup. Mais cet univers a marqué vos débuts en médecine. Cet univers, pour le coup, ce
après,
rapport
vous,
à la,
après, vous voyez, c'est toujours au même qu'arrivent les mêmes choses. Après, vous comprenez la lutte des classes, puisque vous avez de quoi avoir à chaque fois confirmation que votre analyse est juste. Je les ai quittés, les communistes. Mais je garde dans mon cœur cette recherche de la justice. Après, j'ai été médecin dans les mines.
Oui.
Et vous voyez bien qu'il y avait une grande exploitation des gens qui descendaient dans la mine et on leur faisait croire qu'ils étaient les meilleurs ouvriers de France. Et donc, ils disaient « Mon fiston, il descendra aussi ». Ils ne s'apercevaient pas combien ils étaient exploités, enchaînés. Tout était à crédit pour eux, mais ils ne pouvaient plus s'en détacher. Et donc, c'était pas Zola. Mais quand vous regardez la radio de ces gens, vous voyez une silicose et le reste de la tuberculose. Et vous dites, quand même, c'est l'exploitation. Et comment voulez-vous ne pas être révolté, ne pas être malheureux de voir ça? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Nelly Staderini, et vous, quelle était votre famille, votre père, votre mère? Que vous ont-ils transmis? Cela a-t-il compté dans vos engagements humanitaires?
Oui, donc moi, nous, on était quatre enfants, donc ma mère s'est quand même pas mal occupée de nous à la maison, et puis ensuite, elle est devenue psychanalyste. Et mon père était ingénieur, il avait fait des sciences politiques, et puis il est devenu procureur de la République. Donc la première chose qui m'a fascinée, c'est probablement leur évolution de parcours, et le fait que tout était possible. Je crois que d'une manière ou d'une autre, chacun m'a transmis une forme d'analyse et de réflexion, au-delà d'un rapport à l'humanité, ou en tout cas d'un rapport à l'humain qui était assez fort. Mais je dois dire que ce qui m'a le plus probablement forgé, c'est le rapport à l'échec. Et c'est le fait qu'il faut investiguer ça pour en ressortir quelque chose de positif. Et c'est probablement ce qui m'a servi dans ce métier d'humanitaire où, en fait, qu'on le veuille ou non, on arrive dans des formes de situations d'échec, des échecs politiques, des échecs naturels, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'échec quand on arrive, et de voir, d'investiguer ça et de voir, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir pouvoir en faire, transformer ça d'une certaine manière en un positif. En tout cas, à partir du moment où on travaille dans les soins, c'est quand même quelque chose qu'on peut apporter. On va essayer de sauver des vies et sauver des âmes. Mais voilà, donc je pense que ce rapport à la difficulté et le fait qu'on peut changer les choses est probablement ce qu'ils m'ont transmis de plus important.
On va revenir sur cette notion d'échec qui est aussi très importante pour Xavier Emmanuelli. On va en parler, mais je voudrais rester un instant sur la famille. Il y a aussi la famille qu'on crée après. Je sais que vous avez rencontré votre époux, Nelly Saderini, en Afghanistan, en mission. Je sais aussi, m'ont dit mes collaborateurs d'Avec Philosophie, que vous parlez aisément de votre vie de mère de famille, vous avez plusieurs enfants, que tout cela vous paraît parfaitement compatible avec vos engagements humanitaires et que vous n'êtes pas gêné qu'on en parle ici, m'a dit mon équipe. C'est important d'avoir autour de soi un compagnon, un époux, qui ait une compréhension intime, peut-être par ses activités à lui ou ses valeurs, de ce que signifie votre engagement humanitaire.
Oui, alors je voudrais pas faire des généralités, mais en tout cas dans mon parcours à moi, oui, c'est quelque chose qui a été, je pense, très important. À l'époque, il était chef de mission, moi j'étais une petite sage-femme. Il était furax parce que je prenais des photos, alors qu'en fait c'est les gens qui m'avaient demandé de le prendre, alors que lui disait mais non parce qu'on est avec les talibans et tout ça c'est interdit. Et donc encore une fois, la notion d'aller peut-être au-delà des limites de ce qu'on nous infligeait ou dans ce qu'on s'infligeait tout seul, ça c'était quelque chose qui était important. Après, oui, je pense que, alors c'est pas que j'ai envie de parler de moi, mais j'ai envie de parler d'un parcours où on montre que c'est possible, au-delà d'une vie professionnelle et d'un engagement de vie, parce que l'humanitaire, c'est bien plus qu'une profession, c'est aussi possible d'avoir sa vie à soi qui évolue, et puis de faire une famille, de faire des enfants, d'avoir des grossesses dans des pays exotiques, et d'arriver à avoir une cohérence avec tout ça. J'entends encore beaucoup, en fait, la jeune génération, quand je donne des cours à l'université, il y a énormément de filles, il y a de plus en plus de filles, d'ailleurs, qui font tous ces masters sur l'humanitaire et qui restent un peu fascinés par cette possibilité de combiner tout, qui reste aujourd'hui quelque chose probablement assez compliqué à faire. Après, ce serait une fake news de dire que c'est facile et que tout va bien.
Et là, vous êtes au siège de MSF, donc vous faites des formations, transmission de votre savoir, mais vous vous apprêtez à repartir en mission, non ? Je me trompe ?
Alors oui, donc moi je suis basée au siège, mais enfin je travaille sur une trentaine de pays et puis je sais pas une cinquantaine de projets, donc c'est bien de temps en temps d'aller quand même voir ce qui se passe sur le terrain, se reconnecter avec la réalité et surtout la difficulté, les difficultés que rencontrent les gens à mettre en œuvre de temps en temps des pensées qu'on a un peu farfelues au niveau de Genève. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que aller sur le terrain ça permet aussi de voir ce qui est pas écrit dans des rapports, ce qui est pas dit dans des réunions et c'est toujours étonnant. Je pense que l'innovation, elle est vraiment liée à un moment donné, on ne peut pas faire ce qu'on avait dit ou ce qu'on pensait qu'il fallait faire. Et puis, il y a cette espèce de résilience, il y a cette espèce d'imagination qui sort un peu de nulle part. Et ça, de temps en temps, il faut aller la capturer ou la voir sur le terrain parce que c'est des choses parfois en filigrane et qui ont du mal à remonter. Voilà, après il y a quand même la notion de le terrain vient avec une espèce d'intensité de vie à un moment donné. Je pense que ça c'est aussi quelque chose, une espèce d'adrénaline comme ça qui nous donne aussi envie de continuer. Et puis dès qu'on voit quelque chose, voilà, on se met à penser, à réfléchir, à douter sur ce qu'on fait, à vouloir aller au-delà des choses. Le terrain, il y a quelque chose aussi assez fascinant, puis moi j'ai beaucoup travaillé sur la question d'avortement là-dessus, qui est la notion d'exception ou d'exceptionnalité, le fait qu'à un moment donné, dans quelque chose qui est compliqué, on va pousser les portes, puis on va faire exister quelque chose qui peut être temporel. Après, quand ça s'inscrit dans la durée, c'est plus compliqué de le négocier à moyen terme, mais ou de négocier ses conditions d'acceptation. Mais voilà, je pense que le terrain, en allant sur le terrain, on va voir, tiens, avec cette situation, qu'est-ce que potentiellement on va pouvoir en faire.
Vivre pour sauver des vies, c'est notre épisode numéro 2 de cette série sur l'idée d'aide humanitaire que nous vous proposons cette semaine. Et je suis en compagnie de la sage-femme Nelly Saderini et du médecin Xavier Emmanuelli, au parcours extrêmement riche. Et maintenant, je voudrais venir à cette enjeu de l'échec que vous avez évoqué, Nelly Saderini, sur le terrain en mission humanitaire. Il y a des échecs, il y a des situations tellement dramatiques, il y en a bien plus et de manière bien plus spectaculaire que lorsqu'on on est dans un pays occidental non en guerre. J'ai vraiment l'impression, en lisant aussi ce que vous avez écrit, Xavier Emmanuelli, que c'est, en même temps, c'est terrible pour vous, l'échec. Chaque mort, pour vous, vous donne l'impression d'une défaite. Vous êtes allé vous confronter à quelque chose qui est insupportable pour vous.
Alors, il me semble que ce parcours sur le terrain, ces rencontres, vous forge ce que vous êtes. Ça va chercher très profondément en vous des ressources. Et c'est un parcours initiatique. Qu'on en juge, vous partez loin de chez vous, loin de ce qui est familier, loin de ce qui est votre environnement affectif. Vous allez dans un endroit pour le moins dangereux, en tout cas exotique, et avec des dangers quotidiens et chaque minute. Vous êtes exposé. Il n'y a pas de ressources. Et comme vous êtes en équipe, vous êtes sous le regard de vos camarades qui vous obligent à avoir une posture.
Héroïque. Quelque chose de cet ordre, vous le dites. D'ailleurs, c'est très beau comment vous... Vous n'avez pas peur d'aller chercher les fantasmes les plus profonds qui existent pour plein de gens, mais vous avouez qu'il y a une envie d'héroïsme très belle, d'ailleurs, si je puis me permettre, qui est là dans votre parcours.
Vous avez une envie de dépassement. C'est pour ça que je dis que c'est un parcours initiatique. Vous avez des haies à franchir. Et qu'est-ce que vous avez comme ressources? C'est votre culture. Bon, c'est les résistants, c'est les reporters de guerre, c'est des archétypes, si vous voulez. Et les archétypes, vous essayez de le ressembler. Vous n'avez pas d'autres personnes vous a raconté cette histoire. Vous avez lu dans les livres, vous avez vu des pièces de théâtre, de cinéma, et vous avez envie vous-même de vous construire comme ça. Et vous sentez votre faiblesse. Et puis, vous avez le regard impitoyable de vos copains qui vivent la même chose. Chacun attend de voir comment l'autre va craquer.
On s'aide aussi, non?
Et on ne craque pas. On ne craque pas parce qu'il y a les autres. Et on est en représentation, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et c'est une école dure, parce qu'il s'agit de la vie des autres. Je me rappelle, vous parliez de Bangladesh. Quand je suis rentré, c'était quand j'avais vu tous ces enfants qui fouillaient dans les ordures pour manger. Et je pensais, moi, à mes propres enfants que j'avais laissés. Je suis arrivé, mon frère est venu me chercher à Orly. C'était à l'époque paroisse Siro. Et puis je suis resté figé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, regarde. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une publicité pour Canigou, vous savez, pour la bouffe des chiens et des chats. Et moi, je pensais aux enfants qui n'atteindraient pas l'âge de 10 ans parce qu'ils ne trouveraient pas à manger. Et vous êtes confronté à votre image héroïque à laquelle vous allez être obligé de ressembler, à la réalité qui vous a atteint, quoi que vous fassiez. Et vous êtes obligé de chercher votre vérité. C'est ni le grand héros, ni le mec en révolte. Vous êtes dans un endroit où vous ne pourrez pas gagner. Et vous avez le chagrin, mais de perdre les gens, que la situation vous échappe. Vous êtes un médecin, j'ai été réanimateur. Je ne faisais pas trop attention, puisque les gens qui arrivaient en réanimation, dans 25% des cas, ils allaient mourir automatiquement. On ne peut pas faire autrement. Mais vous arrivez en vous battant bien à sortir en faisant des gestes professionnels que mon maître m'avait appris.
On va en parler, ne vous inquiétez pas.
Oui. Et des bons gestes professionnels. Évidemment, vous êtes sur la corde raide. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il manque? Bien sûr. Et vous ne faites pas trop attention. Parce que les gens doivent mourir, c'est la fatalité et tout. Vous comptez pas ces morts-là. Mais quand vous êtes sur le terrain, vous êtes seul. Il y a une équipe, mais vous êtes seul devant ces représentations. Et vous êtes un moment, c'est difficile à dire, vous avez un sentiment d'usurpation. Je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas ma place.
Je n'ai pas assez de puissance.
Je n'ai pas les moyens.
Et mais on gagne un peu. Vous écrivez aussi parfois, on sent qu'on gagne même un petit peu.
On grignote, comme on disait.
Oui. Et ça, c'est important ?
Ah ben oui. Sans ça, vous voyez, j'ai écrit un petit livre avec mon ami, mon cher ami Boris Cyrulnik, qui parle de la résilience.
Ça s'appelle « Se reconstruire dans un monde meilleur ».
Oui.
C'est Humaine Science et surtout, on n'en a pas encore parlé, dedans, il y a vos dessins. Car votre vie, Xavier Emmanuelli, je vais me permettre de le dire maintenant, dans votre jeunesse, vous avez finalement hésité entre trois parcours. Médecin, philosophe, car vous avez fait des études de philo, et dessinateur. La médecine s'imposait, non ? Vu tout ce que vous venez de nous dire, je ne sais pas comment vous...
Non. Le complexe d'usurpation... Vous l'avez longtemps, longtemps. Et même, vous le traînez comme un boulet. Quoi. Vous dites, est-ce que je suis vraiment outillé comme il faudrait ? Alors, je vous parlais de Boris Cyrulnik qui a parlé de la résilience. On peut être vaincu par ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Oui, on peut, et ça peut vous suivre toute votre vie. Mais on peut aussi construire sur des cicatrices. Et à ce moment-là, psychique j'entends, et à ce moment-là, vous avez passé une étape. Vous savez ce que c'est que d'être un homme, puisque vous avez éprouvé l'échec. Vous avez franchi la première haie, qui dit, j'ai rencontré, j'ai fait ce que j'ai pu pour mon semblable. Et vous apercevez que... J'ai rencontré plein de gens à travers le monde et à travers ma vie. On se ressemble tous, vous savez. Quand on parle de semblables, on a les mêmes gestes, la même peur de la mort, la même faiblesse. Et vous rencontrez, pas votre pareil, mais votre semblable. Et ça vous apporte une certaine dimension, plus verticale. C'est-à-dire que dans l'espérance.
Alors, on va parler de votre maître, vous l'appelez comme ça. Il s'appelle, il a disparu depuis, il s'appelle Pierre Huguenard. C'est un professeur de médecine, anesthésiste réanimateur. Vous avez travaillé dans son service, c'est ça, au SAMU ?
Forcément.
Oui. Et il vous a formé. Et le SAMU a été une grande affaire dans votre vie aussi, la médecine d'urgence. On écoute une archive de Pierre Huguenard. C'était sur France Culture, le 10 novembre 1983.
À partir du moment... où la victime est prise en main, les soins dans notre pays sont de qualité sensiblement égale. Nous sommes bien placés, nous autres SAMU, justement, pour le constater. Mais l'inégalité est dans le délai qui s'écoule entre l'accident, le malaise, l'émergence, comme on dit, et le moment où quelqu'un de suffisamment qualifié prend les choses en main. Et alors, c'est le raccourcissement de ce délai qui est très, très difficile. Or, être à 10-15 minutes de tout point du territoire, ça c'est une gageure. Et ça n'est pas en tout cas réalisable avec nos ambulances, ça n'est pas réalisable avec nos routes. Il faut trouver autre chose, il faut augmenter le rayon d'action des moyens d'intervention dont dispose le SAMU. Il n'y a pas 36 moyens, on est en train de l'adopter, de répandre en France, c'est l'hélicoptère. Avec 40 ou 50 hélicoptères, on couvre le territoire français.
L'idée du SAMU, la médecine d'urgence, qui, si j'ai bien compris, est assez typiquement française. J'aimerais bien que vous m'expliquiez si c'est vraiment le cas et pourquoi, a des liens avec l'humanitaire. C'est une manière de penser la vie d'autrui, l'imminence de la catastrophe, qui semble assez sans analogue. Mais je dis ça parce que je vous ai lu, mais j'aimerais que vous me l'expliquiez maintenant.
Oui, d'abord... Le côté bleu-blanc-rouge de la réussite du SAMU, c'est en effet une réussite à la française. Parce que c'est intervenir, c'est aussi l'humanitaire, intervenir dans des délais très courts. pour une intervention relativement courte aussi. Parce que c'est... Les militaires vous parlent d'une chaîne de commandement. On peut dire aussi une chaîne de responsabilité dans l'humanitaire et dans l'urgence. Vous jouez la même partition, quelle que soit votre place. Vous êtes sur le front, mais après, il faut que les gens reprennent là où vous en êtes resté, etc., jusqu'à ce que tout soit stabilisé et que la crise soit passée. Oui, en France, on a bien compris ça. Pourquoi on avait un passé militaire, hein. On a fait toutes les guerres. Depuis toujours.
On ne les a pas toujours gagnés, comme hein, vous n'avez pas échappé. Mais il est vrai que vous dites souvent qu'il y a quelque chose pour tous les médecins à apprendre de très important qui vient de la médecine militaire. Très intéressant, je trouve, ce que vous dites là.
Alors, moi j'ai mes héros en médecine militaire. Il y a la date de Napoléon. C'est tous les grands médecins. Qui ont suivi ces campagnes, elles ont tout inventé. Jean-Dominique Larrey, un merveilleux chirurgien qui a suivi toutes les campagnes, par exemple. Et je voudrais parler de la médecine coloniale, des gens qu'on formait pour aller en Afrique. Deux prix Nobel, hein, il y a eu parmi tout ça, mais c'est des gens qui étaient profondément engagés. La colonie, on peut en dire, et à juste titre, tout le mal qu'on veut, mais ces médecins étaient dévoués, hiérarchisés. Quand ils réussissaient, très bien, c'était la hiérarchie qui récupérait. Quand ils rataient, c'était pour eux, quoi. Mais ils ont découvert toute la pathologie exotique, ils ont découvert le mécanisme du paludisme, ils ont guéri, comme Yersin, ils ont trouvé les mécanismes de la peste, etc. Je peux vous garantir, ces grands, grands médecins, oui, c'est à la française. Et c'est d'aller, de faire des diagnostics sur place, de répondre très vite avec ce qu'on a, avec des choix à faire, des triages. Voilà. Bon, c'est un...
Puis hospitaliser les gens en allant vers eux et le SAMU, on est hospitalisé au moment où on entre dans le véhicule du SAMU.
Exact.
Ensuite, on choisit l'hôpital le plus adapté, pas forcément le plus proche. C'est important, ça. Et pourquoi n'est-ce pas une vision universelle de la médecine? Pourquoi en France, vraiment, on a développé cela? Bon, vous avez parlé de notre passé militaire, mais aller vers le malade, est-il plus français que présent dans d'autres cultures?
Mais pour le SAMU, c'était évident. Si vous avez vu la série Urgence, les gens arrivent aux urgences, et des grands médecins, c'est vrai, ils ont des résultats. Et on perd du temps et on perd des chances. Par contre, si vous commencez sur les lieux de l'accident, vous gagnez du temps et vous gagnez des chances. Et pour vous parler d'un médecin militaire français qui était un génie, lui aussi, je pensais à Pierre Huguenard, mais son ami Henri Laborite, qui a compris les mécanismes du choc. Vous avez ce qu'on appelle les golden hours, une fenêtre très privilégiée des premières minutes avant que les mécanismes d'installation de la pathologie s'installent, les catécholamines, la tachycardie, les vaisseaux, que sais-je, le choc. Et donc c'est les premières minutes, si vous arrivez vite, vous empêchez les mécanismes universels. Et c'est lui qui a inventé le Largactil en particulier. Et ils étaient ensemble.
C'est ça ? C'est un neuroleptique ?
Oui. Mmh. Que les psychiatres ont récupéré. Mais au début, c'était d'abord médical, chirurgical. Et donc, le temps est l'ennemi du réanimateur. Si vous arrivez tôt, vous empêchez les mécanismes pervers de s'installer. Oui, c'est français. C'est parce qu'on est, ces médecins dévoués, magnifiques sur le champ de bataille. Et on a eu ces médecins coloniaux étonnants qui ont lutté contre la fatalité. Et Voilà.
Oui. En tout cas, vous le racontez extrêmement bien. Et alors, je voudrais vous interroger, Nelly Staderini, sur un point qui a été évoqué juste avant. Le fait que, sur les terrains humanitaires, on gagne un peu. On grignote un peu sur la mort, le un peu. Ce qu'il a représenté pour vous, sage-femme. Je crois qu'il y a une mission au Tchad que vous avez faite, où vous avez introduit deux médicaments. J'y connais rien du tout, mais je vais les citer, vous m'expliquerez. Le misoprostol, je crois, qui est censé empêcher les hémorragies postpartum, et le sulfate de magnésium, qui empêche des accouchements précoces, en tout cas aide. C'est peu de choses par rapport à toutes les pathologies qui peuvent concerner une femme enceinte. Mais le peu de choses est essentiel. Vous pouvez nous raconter un peu ça, comment ces deux médicaments, vous les avez un peu systématisés sur le terrain, ce que vous avez fait là-bas?
Oui, alors effectivement c'est une expérience assez assez géniale qu'on avait montée avec une fondation anglaise qui voulait avoir un impact sur le Tchad avec peu de moyens, parce qu'ils avaient peu de moyens. Et en fait, en termes de stratégie, on a rencontré une gynécologue tchadienne, à l'époque il n'y en avait que trois dans tout le pays, Grace Codindo, une femme extraordinaire, et puis en discutant avec elle nous a dit, mais en fait on a deux médicaments qui sauvent la vie des femmes, le misoprostol effectivement et le sulfate de magnésium qui est pour la pré-éclampsie et l'éclampsie, qui sont les complications d'hypertension pendant la grossesse et qui est une des causes de mortalité les plus importantes. Et puis l'hémorragie de la délivrance, effectivement, avec tout un protocole, dont le misoprostol. Et en fait, elle a dit, on va faire un focus sur l'introduction de ces deux médicaments au niveau de la pharmacie nationale, et puis on va former les sages-femmes et les médecins à l'utilisation de ces deux médicaments. Et ça paraissait simple, et ça a été un peu une révolution. C'est-à-dire que moi, je me baladais un peu dans les maternités à N'Djamena avec cette organisation. Et on a bien vu que la mise en place de ces deux médicaments, on a eu une réduction de mortalité liée à ces deux pathologies. Et ça a été extraordinaire et révolutionnaire. Après, le misoprostol ne sert pas à ça. C'est aussi le médicament de choix pour les questions, enfin, pour l'avortement, à la fois le traitement et la provocation des avortements. Et voilà. Et alors, peu, c'est beaucoup, en fait. C'est-à-dire que si vous avez les bons médicaments, le bon savoir, et puis effectivement cette réaction en urgence, la possibilité de référer en cas de complication, vous arrivez vraiment à sauver des vies. Je voulais revenir par rapport à ce que disait Xavier Emmanuelli sur la médecine d'urgence,
oui.
Parce que je trouve que la maternité est rarement vue comme une salle d'urgence, alors que ça l'est. Mais oui. Je pense, en écoutant ce qu'il vient de dire, je vois bien d'où vient la différence. C'est-à-dire que la maternité, et c'est tout son paradoxe, a priori est un phénomène naturel, accoucher tout le monde le fait depuis la nuit des temps, et à un moment donné, potentiellement, ça peut basculer dans quelque chose qui est urgent, et là on se retrouve avec deux vies, pas seulement une, on a deux vies à sauver, et avec des golden minutes, en tout cas pour la prise en charge des nouveau-nés. Donc oui, ça c'est un peu oublié. Enfin, moi je trouve que petit à petit on parle de la maternité, on parle du family planning comme si c'était vraiment des choses, allez, il va nous falloir du temps pour faire ça, mais non, vous arrivez dans n'importe quelle crise. Aujourd'hui, quand on regarde nos statistiques, on a à peu près 30% de n'importe quel hôpital qu'on va monter, où on va devoir faire des césariennes en urgence, dans tous les contextes, particulièrement dans des contextes comme le Moyen-Orient, où en plus, les césariennes représentent un taux très élevé. Donc voilà, donc je voulais dire qu'il faudrait inscrire un peu plus ces questions de maternité dans la médecine d'urgence et un peu peut-être les dégenrer.
Alors je voudrais évoquer maintenant la façon, Xavier Emmanuelli, dont vous êtes approché de la politique. De facto, vous avez été secrétaire d'État chargé de l'humanitaire auprès du Premier ministre de 1995 à 1997. Vous avez donc réfléchi à ce que ça peut apporter à l'humanitaire d'occuper une position comme celle-là. Et je voudrais faire le lien avec l'actualité, ce que j'ai décidé de faire à peu près pour toutes les émissions de cette série, en fin d'émission. Aujourd'hui, l'humanitaire connaît une crise majeure, ne serait-ce que comme idéal, à Gaza, par exemple. Ce qui est une chose, on en a parlé hier, les Israéliens envisagent de ne plus faire appel aux humanitaires traditionnels et de faire leur propre distribution de repas, aidés par les Américains. J'ai annoncé quelques chiffres hier. Désormais, il y a plusieurs millions de repas, effectivement, qui ont été distribués. Enfin, il en faut beaucoup de millions. Si on envisage 3 repas par jour, il y a 2 millions de personnes là-bas. Mais au-delà de cette crise, c'est la vision des humanitaires qui semble changer. Je vous demande pas un exposé géopolitique, là, Xavier Manulis. Je voudrais savoir comment vous percevez ce qu'est devenu l'humanitaire aujourd'hui pour les opinions publiques et pour les pouvoirs politiques.
Alors, comme j'ai passé ma vie, si j'ose dire, dans l'humanitaire, qui m'a fait des grands bouleversements dans mon cœur, mais aussi dans ma manière de travailler, de voir la vie. Et l'humanitaire, c'est pas la charité, bien sûr. C'est de retrouver à la place mystérieuse d'un homme sur la Terre. Qu'est-ce que ça voulait dire? Dans l'éternité, je veux dire, ça a commencé il y a 4 milliards d'années, l'homme est apparu. Qu'est-ce que ça voulait dire? On n'a pas répondu. Tout ce qu'il y a, tout ce que je sens et tout ce que je sais dans l'humanitaire, c'est qu'il faut préserver chaque vie. Sachez quand même que à chaque fois qu'un homme apparaît sur la Terre, et depuis le temps que les hommes existent, il est unique. Et à chaque fois, c'est Adam qui apparaît. Chaque homme n'a été fait qu'une seule fois. Jamais il y a eu un homme semblable à un autre. Un homme, un être humain, vous m'aurez compris. Chaque fois, un homme a été unique. Oui, vous dire, on peut se ressembler, mais chaque homme naît seul, meurt seul, il est unique. Chaque fois que vous perdez un homme, vous perdez un chef-d'œuvre. C'est comme si on déchirait la Joconde à chaque fois. Donc, c'est une catastrophe quand on perd un homme. Voilà un peu, moi qui suis quasiment au bout de ma vie, ce que je pense maintenant. L'humanitaire, donc, a intégré ça. Il a bien compris que ces phénomènes uniques, vous devez le sauver. Et d'ailleurs, tout le monde le sait. Quand il y a un homme en perdition dans la montagne, et que ça se sait, tout le monde trouve que c'est normal d'aller le chercher. On envoyait les CRS, les volontaires, tout ça. Et quand on l'arrache à la mort, et qu'on le descend dans la vallée, qu'on fait le compte, ça se trouve, c'était un grand salopard, un tueur d'enfants. Mais ça, c'est la condition humaine. Et on va le livrer à la justice humaine. Mais on a sauvé cet homme, parce qu'il était, en présence d'un mort, l'ambassadeur de tous les hommes.
Oui, alors, la politique dans la guerre, le bombardement d'un territoire, la guerre, vous connaissez la guerre, vous êtes un humanitaire, vous l'avez connue plusieurs fois dans votre vie. Quand ce sont les protagonistes d'une guerre qui décident de prendre en charge l'humanitaire en ne faisant pas confiance à tout ce qui s'est construit pendant des dizaines d'années dans le domaine de l'humanitaire, en les trouvant trop politiques, en gros pro-Hamas, pour parler comme le gouvernement israélien. Ça dit quelque chose aussi sur l'histoire, ce qui s'est passé avec l'idée humanitaire que vous avez portée, Xavier Manulis. Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Je peux répondre. L'humanitaire a été, comment vous dire, tellement spectaculaire. A fait des preuves de lutte contre la mort. Et c'est la peur universelle, quand même. Que c'est devenu connu de tous. Et imité par tous. Pour la politique, on peut comprendre. Quand il n'y a pas de politique, on dit on va sauver les gens. Je veux dire que j'ai pas besoin d'aller bien loin, que l'Europe, qui n'a pas de programme politique très défini, s'est toujours occupée d'humanitaire. Et donc, ce côté spectaculaire, sur lequel tout le monde est d'accord, a été en quelque sorte utilisé par les politiques pour montrer leur efficacité et leur bonne volonté. Ouais, les politiques n'ont pas été longs à comprendre que ça donnait une belle image à la politique. On a été spoliés, l'humanitaire n'est pas politique, ne peut pas être politique. C'est la position métaphysique de l'homme sur la Terre. Comment voulez-vous que ce soit politique? C'est dévoyé. Regardez la jeune femme qui est interrogée en même temps que moi.
Nelly Taderini.
Nelly, ce que je pense, Elle est de ma famille. Pourquoi ? Tous ceux qui sont passés à MSF, à MDMA, je les appelle mes valeureux camarades. Ils ont été sur le terrain et ils ont eu la même pensée que moi. Sauver la vie. Le même respect que moi.
Évidemment. Merci. Je suis désolée, je passerai bien la matinée avec vous, mais c'est pas possible.
Pardonnez-moi.
Merci Nelly Staderini, merci Xavier Emmanuelli pour cette émission que j'ai trouvée très riche et touchante. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il parle du destin. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi oppose-t-on le destin et la liberté ? Devant les actes des êtres humains, devant les actions humaines, il semble y avoir une opposition déterminante pour les expliquer. Il y a une opposition classique qui semble rendre compte de manière contradictoire de nos actes les plus simples ou les plus importants, des actes des humains dans le monde. C'est l'opposition du destin et de la liberté. Prenons un acte qui a eu des conséquences historiques et sur lequel, par exemple, les philosophes du XVIIe siècle, et notamment Leibniz, ont beaucoup réfléchi comme un exemple de cet enjeu entre destin et liberté, prenons l'acte de César, Jules César, décidant de franchir le Rubicon. Quel est le motif, quelle est l'explication de cet acte ? César lui-même l'a renvoyé à une décision libre, une décision absolue, une décision pour laquelle il a donné un exemple du côté de l'arbitraire, du côté de l'aléa. Il a dit « aléa jactaes », le dé en est jeté. Il hésitait et finalement c'est en jetant le dé, en faisant pile ou face, qu'il a décidé de faire ce geste qui allait entraîner un bouleversement du monde. L'exemple de la liberté, c'est cet exemple d'un arbitraire qui n'est pas écrit a priori, ni dans les cieux, ni par les dieux, ni même dans les décisions préalables de César. Arrivé devant le Rubicon, il faut encore ce geste de la liberté absolue sous le signe de l'arbitraire possible. Mais évidemment, face à cet arbitraire, il y a une autre explication, une explication qui renvoie à la nature profonde de César, et c'est celle même de Leibniz qui dit que l'acte de franchir le Rubicon était préécrit dans tous les autres actes de César, même si lui-même n'en avait pas connaissance, même si seul Dieu connaissait cette vérité, cette substance de César, cette notion profonde de l'individu César, ce destin que Dieu connaissait. Pour Dieu, en effet, César devait franchir le Rubicon, même si César n'en avait pas conscience. Et Leibniz durcit ce concept de destin au point d'inventer le concept de destin mahométan, dit-il, de destin musulman, pour qui tout est écrit, ce destin fataliste qui caricature la religion elle-même, puisque, comme l'ont montré les philosophes contemporains de l'islam, notamment Souleymane Bachir Diagne, il n'y a pas plus de destin absolu dans cette religion que dans une autre, et les humains contribuent à la création de leur propre liberté. Cette opposition entre liberté et destin a donné lieu à des théories caricaturales de la liberté comme acte gratuit ou de destin comme prédétermination absolue. Toutes les théories profondes de la liberté ont cherché à combiner les deux. Par exemple, chez Bergson, où la personnalité de César, grandissant, hésitant dans la durée, va donner lieu à un choix qui en effet n'est pas préécrit, mais qui n'est pas non plus complètement gratuit, qui rassemble dans les décisions graves et profondes tout ce qu'il a constitué jusqu'ici, au risque même du tragique, du sérieux. Tout le sérieux de la vie, dit Bergson, lui vient de notre liberté. Et selon cette phrase, on comprend mieux que l'opposition entre destin et liberté n'est pas ce qu'il y a de plus profond pour nous dans l'existence. Le plus important, c'est plutôt l'opposition entre les actes individuels et une conception de l'être qui les écrase ou qui les détruit. Oui, l'important, ce n'est pas tant de savoir pourquoi César a franchi le Rubicon, mais de reconnaître ce que ces actes font l'histoire, qu'il y a une réalité des actes individuels, que la liberté fait destin et que le sens du destin, c'est plutôt de reconnaître à la fois notre liberté et notre responsabilité.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique François Saint-Jour. Merci aux équipes techniques de la radio-télévision suisse qui ont assuré le duplex ce matin depuis Genève. Cette émission a été préparée par Carla Michel en particulier et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Chaïma Giboire, Armance Bourquin et Nassim El-Kabli. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.